I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffée et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute.
Merci à Feuille Blanche de me prêter son studio pour cet enregistrement de Genre de fille. Alors aujourd'hui, dans Genre de fille, je reçois Solène Etienne, qui est justement l'une des cofondatrices de Feuille Blanche. Salut Solène.
Salut Anne-Laure.
Je suis hyper contente de te recevoir au micro de Genre de fille.
Ça me fait bizarre d'être de l'autre côté du micro.
Oui, je sais. Tu vas nous en parler justement, mais d'habitude, c'est toi qui poses les questions, c'est toi qui mènes l'interview, et là, ça va être un peu le contraire.
Mais ok, je prends le pari.
Bon, déjà, merci d'avoir accepté mon invitation, sachant que toi aussi, le son a une place hyper importante dans ta vie aujourd'hui, puisque donc tu fais beaucoup d'interviews, notamment dans des podcasts, et on va en parler. Tu es une entrepreneuse un peu dans l'âme, parce que Feuille Blanche, ce n'est pas ta première entreprise. Tu peux nous raconter un petit peu quel est ton parcours ?
En effet, je pense que fondamentalement, j'ai ce côté entrepreneur dans l'âme. Bien que je n'ai pas commencé après un parcours classique d'école, etc., je n'ai pas du tout commencé dans l'entrepreneuriat. Et à ce moment-là, je crois même que je ne l'envisageais pas forcément parce que c'était aussi une époque où tu vois, la réussite passait par partir dans des grands groupes, ouais. Avoir des gros postes, etc. Et moi, il se trouve que j'ai cherché un job en 2009-2010 quand en fait, c'était beaucoup moins facile
c'est
de
bien,
trouver un
simple.
Job. C'était hyper simple, Lehman Brothers, tout ça. Hyper simple. Alors que j'étais en process, tu vois, chez Canal, qui me faisait complètement rêver, où je faisais aussi mon stage de fin d'études.
Sympa, le stage chez Canal ?
Sympa.
Encore la grande époque en plus, non ?
Ça commençait à être sur la fin de la grande époque. Et puis, ils coupent tous les robinets, quoi. Ils ne recrutent plus personne. Et donc, du coup, je me retrouve à chercher un taf. Et en fait, je postule pour une boîte qui, à l'époque, c'était, je crois, chef multimédia ou un truc comme ça. Tu vois, un terme que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Et en fait, l'idée, c'était un job où l'idée était de monter un magazine au départ, qui est devenu une web TV. Et en fait, j'ai monté une web TV en 2010, quand c'était vraiment les balbutiements de la web TV. Souvent, j'ai l'habitude de dire sur YouTube, il n'y avait pas énormément de choses, ou pas des choses en tout cas pro et business. Et c'était une web TV dédiée à l'économie et au management, donc un truc plutôt très sérieux. Et j'ai eu finalement un petit parcours d'intrapreneur quand le terme n'était pas à la mode. Et j'ai monté en fait cette unit qui, au départ, était de la communication pour le groupe en question, en fait, ouais. Qui était une manière de valoriser le contenu. Et c'était aussi les balbutiements du brand content. On était sur vraiment les débuts en France de ce sujet-là. Et la direction de cette boîte était très avant-gardiste en fait, sur ce sujet. D'en faire un objet de com, on en a fait un objet, enfin essayer d'en faire un objet de profit. Et donc très vite, j'ai fait du brand content vidéo en B2B pour des cabinets de conseil, des cabinets d'avocats, etc. À essayer d'évangéliser sur l'intérêt de parler de sa marque autrement que via la publicité classique,
ouais,
mais par le contenu.
Chiant à entendre ou à voir.
Oui, ah, et sans dire le nom de ta marque tous les trois mots, mais plutôt démontrer une expertise sur ton territoire de marque. Donc j'ai été plongée en fait dans cet univers-là.
Tu peux citer la marque ou tu préfères pas ?
Oui, je peux citer. J'ai monté en fait la web TV de Xerfi, qui est un institut d'études économiques, Xerfi Canal, qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui.
Oui, ils font des études.
Des études économiques.
Okay.
Voilà. Et c'était en fait le moyen de communiquer finalement sur ces études-là, parce que la presse les reprenait très peu, parce qu'elle prenait juste le chiffre, mais toute l'analyse autour n'était pas forcément là. Et donc voilà. Donc j'ai fait ça pendant quasiment 6 ans, où je dirigeais à moins de 30 ans une équipe de moins d'une dizaine de personnes. On faisait 30 nouvelles émissions par semaine. Donc c'était un voilà, une grosse production. Et fondamentalement, je pense que j'étais entrepreneur dans l'âme. Et j'ai eu envie, en fait, de passer de l'autre côté de la barrière. Et alors là, j'ai commencé par un projet entrepreneurial autour du cadeau, parce que c'était l'année de mes 30 ans. Et autour de moi, tous les 15 jours, il y avait une cagnotte d'anniversaire. Et tous les 15 jours, c'était « Allô Solène, qu'est-ce qu'on achète ?» Et donc, j'allais trouver le cadeau, etc. Je faisais les cadeaux de Noël pour mes copains, pour leur famille, parce qu'ils n'avaient pas le temps, que ça les saoulait, alors que moi, j'adorais chercher ça. Et je me suis dit, est-ce que j'arrive vraiment à faire un business ? Bref, par le réseau, etc., je me retrouve à être ce qui, chez Willa, qui à l'époque s'appelait encore Paris Pionnière.
Ouais. Ouais. Et là, on précise, c'est un incubateur pour les femmes.
Exactement. Ouais. Où il faut au moins qu'il y ait une femme dirigeante, en fait. Ça, tu peux avoir des équipes mixtes, mais il faut au moins qu'une femme soit cofondatrice. Pardon. Et je me retrouve dans un programme qui doit s'appeler toujours Possible Camp. Il me semble que ça existe toujours, mais c'est de la deuxième ou troisième édition. Et donc, c'est 3 jours où je me retrouve avec des filles entrepreneurs, une énergie de dingue, où tu as l'impression que tout est possible. Et il y avait un concours de pitch. Donc, il fallait que je pitch ma fameuse idée.
Donc là, ton idée, c'était...
Alors, mon idée, pas dit. Mon idée, c'était en fait de me dire, d'un côté, il y a des gens qui font des cagnottes. Alors, à l'époque, il y avait surtout Litchi. Et ils ont 350,18 € dans la cagnotte. Et ils se disent, qu'est-ce qu'on va acheter ? Et de l'autre côté, je me disais, il y a plein d'artisans, il y a plein d'artistes, il y a plein de gens qui sont hyper forts dans ce qu'ils font, mais d'un point de vue marketing, c'est pas leur job, quoi, en fait. Et on les connaît pas. Et donc, j'avais imaginé... Le truc hyper scalable, vous allez voir. J'avais imaginé des parcours dans Paris où, en fait, le jour de son anniversaire, par exemple, tu recevais une pochette avec déjà un petit cadeau parce qu'on n'a pas envie d'ouvrir que du papier. Et tu avais un parcours à faire, alors soit avec ta sœur, avec tes copines, etc., pour aller chercher tes cadeaux. Et tu rentrais dans des boutiques de créateurs ou d'artistes et tu disais « Bonjour, je suis Anne-Laure, apparemment, vous avez quelque chose pour moi. » Et là, quelque chose t'attendait.
C'est trop sympa!
C'était hyper sympa. Mais donc, le spoiler alert, c'était difficilement scalable.
Donc, mais bon. Tu te retrouves au concours de pitch.
Donc, je me retrouve au concours de pitch. Et le lendemain, résultat du concours de pitch, et je gagne.
Énorme. Et là, vous étiez combien à pitcher ?
On était une quinzaine, je pense, dans cette promo, 10-15, ouais, je ne sais plus trop. Et surtout, moi, j'étais venue juste tester mon idée auprès de gens qui n'étaient pas mes copines et mes copains pour me dire que c'était génial, en fait. Et donc, je ne m'étais pas trop intéressée à ce qu'on gagnait, etc. Enfin, moi, j'avais fait le truc, pour faire un pitch, je fais le pitch. Et donc là, discrètement, je dis à la nana qui s'occupait de la com à l'époque, je lui dis, mais en fait, j'ai gagné quoi ? Et là, elle me dit, t'es pré-incubé à partir de la semaine prochaine. Et donc, je me suis retrouvée, si tu veux, dans cet écosystème dans lequel je connaissais un petit peu des gens, mais c'était pas trop mon écosystème parce que j'étais quand même dans le milieu de l'entreprise, de l'économie, du management. Donc, c'était universitaire, des économistes, etc. Et donc là, je me retrouve plus dans la partie start-up, quand ça commence à être un peu l'éclosion de tous les incubateurs, etc. À préparer, si tu veux, le début d'une boîte. Ouais. Alors, j'ai quand même vendu des packages, etc. Et même à des gens que je ne connaissais pas, je me disais, mais comment ils arrivent sur ma page, etc. Donc, j'ai fait ça, pendant une petite année.
D'accord. T'étais toute seule ?
J'étais toute seule, mais je faisais tout. Enfin, j'inventais les... Parce que bien évidemment, tu vois, sur le parcours, il y avait des devinettes pour trouver qui était l'artiste, etc. Donc, je me suis bien amusée, voilà. Mais j'emballais les cadeaux, je livrais les cadeaux. Enfin, je faisais tout. Ouais. Et bon, en fait, très vite, je me suis dit, ça va pas être scalable, cette histoire.
Attends, on va juste préciser, parce que t'en as qui savent.
Oui, pardon, scalable, ça veut dire passer à l'échelle, ce qui permet, en fait, que je fasse pas tout moi, mais qu'il y ait, par exemple, une intelligence artificielle qui est à partir d'un questionnaire. Parce qu'en fait, j'avais analysé qu'en 8 minutes, j'étais capable de cerner à peu près la personnalité de la personne et quel cadeau pouvait être possible pour cette personne-là. Ça, je l'avais mis, mais c'était que moi et ma tête, en fait. Ouais. Donc, l'idée de scaler, c'est qu'en effet, on puisse passer à l'échelle et que ça ne dépende pas que de moi, d'autres personnes. Voilà. Donc là, j'étais vraiment dans les débuts de ma vie d'entrepreneur. À côté de ça, en fait, on venait toujours me chercher pour des missions donc, de contenu de marque, de brand content, des conseils en com, etc. Donc, je faisais toujours des missions à côté qui étaient un peu plus rentables que mon petit business, qui s'appelait Juste parce que. Parce que juste parce qu'un anniversaire, juste parce que tu as eu ton bac, voilà, ça marchait à toutes les sauces. Événement dans ma vie perso, etc., qui fait qu'il faut que j'arrête tout à un moment. Donc, je quitte même Paris quelques temps et je reviens et j'ai plus du tout envie de faire des cadeaux, de trouver peut-être une associée, de me lancer dans des investissements de fou pour passer à l'échelle. Et je monte une première boîte de stratégie de marque. Et je me dis, tiens, je vais en fait accompagner des entrepreneurs à raconter leur histoire. Donc, tout ce qu'on appelle le narrative, le brand narrative, aussi le storytelling, etc. Et travailler finalement les messages. Ça m'a toujours animée. Finalement, c'est ce que je faisais au départ. Ce que j'ai fait aussi avec cette histoire entrepreneuriale, parce que finalement, je mettais en histoire des vies, des sujets d'artisans, d'artistes, etc. Et là, je me dis, je vais le faire pour des marques. Donc, j'ai monté cette première boîte.
Toute seule aussi, là.
Alors, non, j'avais une associée. Enfin, on s'était associés sur un très bon conseil de quelqu'un que tu connais. Arnaud, coucou Arnaud, parce qu'il m'avait fait mes focus group sur mon premier, juste parce que. Il m'avait dit, si ta première boîte, etc., vous faites du conseil, il n'y a pas d'enjeu là tout de suite. Moi, je voulais pas, dans un premier temps, je n'avais pas envie de remonter une boîte avec du management, etc. J'avais eu ça dans la boîte précédente, j'avais vu tout le côté cool, mais tout le côté moins cool aussi. Et je n'étais pas prête en fait à refaire ça. Là, j'ai envie d'être indé, à mon rythme, comme je voulais, etc. Et donc, on s'était dit, on va créer une marque commune, mais deux sociétés différentes. Et d'ailleurs, c'était un très bon conseil pour ce qu'on en a fait et comment a évolué la boîte. Donc, on était quand même toutes les deux sur ce sujet-là. Et à côté, j'avais aussi des autres missions, en fait, de mon côté, en fait. Donc, j'étais relativement libre sur ce sujet-là.
Donc là, tu écris des histoires.
Là, j'écris.
Tu fais du storytelling pour des marques.
Ouais, du narratif pour des marques. Souvent des marques qui se lancent ou des repositionnements de marques, mais souvent des petites startups qui se lancent en fait à cette époque-là.
Donc déjà un peu le goût de l'histoire, de l'écoute aussi, puisque
ouais. Ouais, parce qu'en fait c'est un vrai travail de maïeutique à la Socrate, c'est-à-dire d'aller chercher, parce que finalement quand tu racontes l'histoire d'une marque, tu vas chercher aussi l'histoire de ses fondateurs, parce
ouais,
que
complètement, ouais.
S'ils ont eu l'idée à un moment de faire ça, c'est que, un, il leur manquait certainement quelque chose, mais deux, que ça leur remue les tripes. Et pourquoi ça leur remue les tripes de faire, en fait, ce sujet-là. Donc, c'est vrai que certains, d'ailleurs, disent quelquefois « J'ai l'impression un peu d'être chez ma psy. » Donc oui, c'est un vrai travail de maïeutique pour raconter l'histoire et pas juste raconter la belle histoire, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis pas trop pour les punchlines qui font bien, mais pour être dans le réel et le vrai, parce qu'en fait, je pense que c'est la meilleure manière pour que celui qui, après, doit raconter son histoire, se l'approprie de manière pérenne et soit à l'aise avec l'histoire. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus dramatique que des marques où celui qui porte l'histoire n'est pas aligné avec cette marque, ouais, et avec cette histoire. Et du coup, ça te contorsionne parce que tu dois la porter toute la journée. Donc, c'est vrai qu'on va chercher des choses assez profondes, loin, et puis pas qu'avec le fondateur, mais aussi avec, par exemple, ses partenaires, ses investisseurs, tout l'écosystème, parce qu'il y a ce qu'on pense de sa marque, mais aussi comment l'autre la voit. Et pour nous, ça, c'était important aussi d'aller sur ces sujets-là. Et puis, du travail aussi de stratégie éditoriale, c'est-à-dire, donc là, tout mon passé de programmation, d'émission, de concept, de format, de me dire comment je le mets au profit d'autres, en fait, et comment on leur crée des formats de prise de parole, ou en tout cas qu'on leur prévoit un plan de prise de parole qui fait que ils sont présents et visibles tout le temps dans leur écosystème. Et donc voilà, c'était très bien et tout, ça a marché bien. Et puis après, je vais devenir maman. Voilà. Et là, en fait, avec ma première associée, on se rend compte qu'on n'a plus forcément les mêmes envies. À ce moment-là, elle a un fort tropisme, déjà très précurseur de tout ce qui est vraiment que impact, et aussi beaucoup de sujets autour des femmes, etc. D'accord. Et moi, c'est des sujets qui me tiennent à cœur aussi. Mais en fait, on me demande aussi d'autres choses, en fait. Et donc, je n'ai pas envie de me priver d'autres choses. Donc, bon, on décide d'arrêter cette association-là. Et je suis en pseudo-congé mat, parce que ça, je ne sais pas si on y reviendra. Quand tu es entrepreneur, le congé mat, c'est un concept sur le papier.
Complètement. Même si les choses changent, mais il faut avoir atteint un certain seuil.
Oui, et puis je pense que c'est aussi un état d'esprit. Ouais. En fait, je crois que je suis pas sûre que j'étais très prête, en fait, à tout couper. Alors en plus, la config était un peu différente parce que, alors là, je vais devoir faire un saut dans le temps. Mais sur ma deuxième fille, je suis associée avec mon mari sur Feuille Blanche. Oui. Thomas est aussi mon mari, spoiler pour ceux qui ne le savaient pas. Et donc, quand on a eu la deuxième, on était associés dans la même boîte. Sur la première, lui venait de revendre sa première boîte. Il était salarié de la boîte qu'il avait rachetée. Moi, j'étais à mon compte, je faisais comme je voulais. Enfin, on n'avait pas de salarié. Donc, en fait, la config était quand même différente.
Tu veux dire, c'était plus sécure le premier congé mat que le deuxième?
Alors, plus sécure, oui, parce que du coup, t'es pas tous les deux dans la même boîte, déjà d'une. Et deux, t'as pas de salarié, t'as pas d'équipe. Donc, à la limite...
Oui, parce que là, vous avez des salariés et une équipe au sein de Feuille Blanche.
Exactement. Donc, c'est pas les mêmes responsabilités non plus. Même si les équipes sont formidables et autonomes, bah, il faut quand même que tu sois là pour impulser un minimum. Et puis c'est un deuxième aussi. Ouais. C'est un peu plus compliqué peut-être qu'un premier.
C'est ce qu'on dit souvent.
C'est ce qu'on dit souvent.
On dit souvent que le deuxième, c'est un peu une grosse claque dans ta gueule.
Surtout quand la première dort au bout de 2 mois et demi et que la deuxième met 1 an à dormir. C'est un peu plus...
Ah, mais pauvre.
Et encore, ouais. On a de la chance.
Alors, elles ont combien d'écart, 2 ans?
Elles ont 2 ans et demi, ouais.
Donc, on revient.
Donc,
premier congé mat.
Premier congé mat. Enfin, premier, oui. Ouais. Elle naît au mois d'août. Je recommence à, enfin, le 19 août et je commence à rebosser, je pense, le 28. Le 28 août.
Ah oui, quand même.
Ouais, ouais. J'ai des photos de moi où je l'ai dans les bras avec mon menton. Je tiens le biberon et je tape sur mon Mac quand même. Ouais. Dans des mails. Et en fait, à ce moment-là, il se trouve que...
Donc, tu te sépares de ton...
De mon associé, okay. Ouais. Je me sépare plusieurs mois et demi après, je pense 2 mois après. Et là, je réfléchis à la suite. Mais en fait, j'avais toujours des missions qui rentraient, en fait, parce que bah, j'avais aussi mon propre flow, oui, en fait. Ouais. Et tout n'était pas dans cette boîte-là. Et à côté de ça... On avait eu avec un ami avec qui j'avais bossé aussi, avec qui je bossais aussi sur du flow comme ça qui rentrait, qui lui était lui est designer et designer UX UI, un projet à nouveau autour du cadeau. Parce que quelques années avant, il m'avait aidé en fait, lui, il m'avait fait tout mon logo, etc. sur ce premier projet. Et un jour, il m'appelle et il me dit, tu sais, je dois envoyer un cadeau à mon avocate parce qu'elle m'a sorti d'affaire. Mais c'est hyper délicat parce que je suis un mec, c'est nana, je sais pas où elle habite, je lui envoie des fleurs, je sais pas, enfin, comment ça va être interprété, etc. Et on commence à rigoler, parler de ça, en fait, et se dire, tiens, il y a peut-être un business, en fait, à faire pour les gens qui veulent remercier en cadeau, etc. Et en fait, il se trouve que Joël a une petite fille 3 jours avant moi, donc avant moi, ma première fille, et que pendant nos nuits de biberon, on échange et lui commence à coder un truc, etc. Et on teste, en fait, quelque chose autour de ce principe. Le principe étant, au départ, on fait un chatbot où on n'a pas besoin de connaître l'adresse de la personne pour faire un cadeau. C'est le chatbot qui va s'en occuper, etc. Au départ, c'était ça. Bon, et puis, le projet évolue et moi, je me dis, je vais avoir un nouveau projet de boîte à monter. Que Feuille Blanche naît aussi à peu près à ce moment-là. Lui, il avait sa boîte aussi. Et on se dit, on va jamais réussir à monter ça tout seul. Il me dit, écoute, moi, j'ai rencontré une fille géniale qui était une de mes anciennes clientes qui a envie de se lancer dans une aventure entrepreneuriale.
En lien avec le cadeau.
Elle trouvait l'idée géniale, en fait. Elle-même avait eu ce problème-là. Et donc, rencontrons-la. Et alors là, je me souviens, on se donne rendez-vous dans un cocoon space un vendredi matin du mois d'octobre, genre le 31 octobre 2019, dans un cocoon space. Thomas ne pouvait pas garder notre fille parce qu'il avait un rendez-vous le matin-là. Donc, je débarque dans ce cocoon space en poussette. Avec ma fille qui a 2 mois et demi. Et en fait, je rencontre Léonie, ça match super bien. Et on crée les statuts de la société Je dis merci dans ce cocoon space, tous les trois. En laissant à Léonie la plus grosse partie du capital aussi, parce qu'on sait que c'est elle qui va en fait développer la boîte. Et que nous, on a été un peu les... On a impulsé l'idée au départ, mais qu'en fait, si la boîte fonctionne, ça va être surtout grâce à elle. Et nous, on va amener notre réseau, notre savoir-faire. Donc, on a travaillé, nous, par exemple, côté Feuille Blanche, tout le branding, toute la mise en réseau avec les premiers clients. Joël, lui, il a travaillé toute la partie UX, etc. Et c'est vraiment Léonie qui a développé cette boîte. Et cette boîte qui est montée jusqu'à 25 salariés, qui est basée entre Lyon et Grenoble aujourd'hui.
Alors attends, ça fait quoi Je dis
et
merci.
Et alors je reviens. Non, non. Je dis merci, c'est une Martech qui en fait rend l'envoi d'objets physiques aussi simple qu'un email dans différents cas de figure, que ce soit pour des programmes ambassadeurs clients, c'est-à-dire comment tu fidélises tes meilleurs clients. Et jusqu'à présent, dans beaucoup de boîtes, en fait, ce sujet-là de la feed et de envoyer des chocolats, une bouteille de champagne, des fleurs, une carte cadeau, enfin je ne sais quoi. En fait, c'est un casse-tête sans nom. Et en fait, Je dis merci se plug sur les CRM des boîtes. On met un programme, etc. en place et s'occupe vraiment, ça peut être du sourcing jusqu'à la livraison du cadeau chez les gens sans avoir forcément l'adresse en plus. Et aujourd'hui, on a des super business case, notamment dans le travel, par exemple, avec qui on a fait une OP avec un grand groupe de travel qui a voulu envoyer après les séjours de vacances, de parents en vacances, des livres de coloriage et des crayons de couleur. Bon, bah, les gens, il y a une fidélité, en fait, il y a une attention qui fait qu'ils recommandent un voyage chez ce même prestataire, ouais. Par exemple. Donc là, je suis au board de cette boîte. Je ne suis absolument pas opérationnelle dans cette boîte.
En même temps, tu commences à feuille blanche.
Et en même temps, feuille blanche commence en même temps.
Et attends, énorme challenge. Donc là, ça veut dire, OK, avec Thomas, ton compagnon, qui est devenu ton mari après.
Qui est devenu mari entre... après, ouais, c'est ça.
Vous vous dites, on lance une boîte ensemble.
Ouais, alors je ne sais plus comment est née l'idée. Enfin si, l'idée c'était que Thomas, il allait arriver au bout des 2 ans de post-rachat en fait, de sa boîte. Il savait qu'il n'avait pas forcément envie de continuer dans cette aventure-là. 2 de ses associés étaient déjà partis. Il avait envie d'une nouvelle aventure. On était jeunes parents, donc on se dit, on ne va pas non plus se lancer dans un projet from scratch alors qu'on a un bébé, on vient d'acheter un appart, enfin voilà, tous ces sujets-là. Et en même temps, en fait, on travaillait déjà énormément ensemble et on parlait déjà de nos clients à la maison. Je l'avais aidé sur des propositions clients. Lui m'avait challengé sur des trucs. Et en fait, on se dit, finalement, si on mettait ensemble nos talents, nos réseaux et nos expertises, sachant que moi, j'avais quitté la partie pure média, qui avait été mon premier job, mais je l'avais quitté parce que j'étais plus allée sur de la strat. Et j'avais envie de revenir sur le média. Et Thomas, lui, il avait toujours fait du média, il avait fait un peu de strat, mais il avait envie de monter sur de la strat. Et on s'est dit, en fait, on peut avoir une offre globale en montant feuille blanche de la strat au média. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé.
C'était il y a combien de temps, ça ?
Le premier client commun qu'on a eu, c'était en janvier 2020. Très bon timing !
Gros lancement de boîte. Quoi.
Gros lancement de boîte, parce que donc là, à ce moment-là, nous avons une fille qui a 4 mois et demi, 5 mois. Nous sommes en janvier.
Mais elle dort.
Elle
dort. Pas mal.
Elle dort, franchement, c'est top, elle dort. Et à ce moment-là, j'ai une place dans une crèche privée. J'ai encore pas ma vraie place en crèche, mais bon, je me suis débrouillée. Ouais. Et on lance donc Feuille Blanche en janvier 2020.
Et est-ce que le podcast existe déjà à cette époque-là?
Non,
ou pas,
mais on l'a dans les tuyaux parce que Thomas, il voulait absolument garder le format média. Moi, j'ai envie d'y revenir, mais alors lui, il voulait absolument pas le lâcher. C'est-à-dire qu'on était dans une autre dynamique. Et en fait, Thomas, il avait déjà l'idée en fait, du format 40 nuances de Next avec Olivier Mathieu, avec qui il le co-host. Donc Olivier, qui a été l'un des fondateurs de Price Minister, qui est aujourd'hui DG du fonds 2050, qui a été aussi président, vice-président, pardon, je ne sais plus, de France Digital, donc aussi très dans l'écosystème. Il se connaissait avec Thomas depuis le début, parce que Thomas, en fait, pardon, petit flashback, Thomas, lui, il avait un média dédié aux entrepreneurs, quand il n'existait rien sur les entrepreneurs en termes de médias. Donc il avait aussi tous ces contacts qu'il avait depuis le début.
Et donc, on va donner son nom quand même, c'est Thomas Benzazon.
Thomas Benzazon. Et donc, avec Olivier Mathieu, on avait ce projet-là. Et d'ailleurs, alors, true story, il se trouve que j'ai un problème de crèche en mars 2020.
Ah, mais attends, laisse-moi deviner, c'est la crèche privée. Parce que nous aussi, on a eu ça où... Tiens, finalement, on a une entreprise qui prend un berceau, donc vous avez un mois pour dégager.
Alors non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on a un appel en début janvier, je crois, pour nous dire il y a une crèche qui ouvre et vous avez une place dans cette crèche. La mairie qui t'appelle. Alors, c'est un peu
blague.
C'est le plus beau jour de ta vie, tu vois. Tu dis ah génial et tout. Et genre le 20 février, on a un mail qui nous dit alors les travaux ont pris du retard. Finalement, elle ouvrira qu'en avril. Donc on est le 20 février. Moi, j'ai donné mon préavis pour l'autre crèche et donc je fais comment? Et donc là, je sais pas pourquoi, c'est que je me dis oh, ça va être galère et tout. Et donc j'appelle mes parents et je leur dis vous pouvez pas me trouver une nounou près de chez vous. Mes parents bossaient tous les deux, hein, donc vous pouvez pas me garder ma fille du tout. Mais je sais pas, j'étais plus rassurée si c'était près de chez eux. Et donc mon père vient chercher ma fille le 8 mars. Oui, je m'en souviens. C'était le 8 mars 2020. On vient la chercher, c'est un dimanche. Et nous, on se dit on va y aller jeudi, le 13, donc. Puis on va passer 5 jours là-bas, puis on va revenir à Paris, puis on va faire ça tout le mois de mars pour l'avoir quand même, parce qu'elle est petite, elle a 6 mois. Et donc, le dernier call qu'on a passé à Paris le 13 mars, c'est avec Olivier Mathieu pour parler du podcast. Et à ce moment-là, je me dis, oh, on part quand même 5 jours là chez mes parents. Je dis, on va avoir peut-être le temps de faire du sport. Donc, je chope un short que je mets dans la valise de Thomas, dans notre valise, et on part. Et on arrive chez mes parents. Il est 20h et là, notre président prend la parole pour dire que le lendemain, il ferme les crèches et les écoles. Et là, je me dis, ah ouais. Donc, j'appelle la nounou que mes parents avaient trouvée en disant, écoutez, c'est très gentil, elle est venue 4 jours chez vous, mais là, vu que ça ferme, on ne va pas vous la mettre le temps d'eux, quoi. Et puis, le mardi, on est confiné. Et donc, on est confiné chez mes parents jusqu'à la fin du confinement. On venait d'acheter tout notre matos de podcast, mais qui, bien sûr, était resté à Paris parce qu'on n'imaginait pas rester 2 mois et demi. Et là, en fait, je dis à Thomas, écoute, ça n'a pas duré 15 jours, hein, cette histoire. Je pense que s'il faut qu'on lance un podcast, c'est maintenant, en fait. Parce que, en fait, les gens, ils vont avoir besoin d'entendre des choses et on va avoir besoin de se serrer les coudes et on va avoir besoin de ça. Viens, on appelle Olivier et on se débrouille, on se fait livrer du matos. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et on a lancé le podcast à distance. Donc, Olivier à Marseille, nous, dans l'Est, chez mes parents. Mon père nous avait laissé son bureau dans lequel on avait mis des paravents, des couettes. pour essayer de voilà que ça ne résonne pas trop. Donc sur certains premiers épisodes, on a des petits rires de notre fille qu'on peut entendre derrière parce qu'on pouvait pas non plus la baïonner bien que la maison était grande.
Donc là c'est les débuts de 40
nuances
de Next.
Et c'est les débuts de 40 nuances de Next, ouais, qui ont été faits tous à distance pendant le confinement. Voilà, ça a été le début de l'audio avec Feuille Blanche.
Et toi tu y as pris goût tout de suite ? Est-ce que tu faisais les interviews ou tu étais plus...
Non, alors moi, j'étais plutôt à la conception avec, ouais, donc avec Thomas et Olivier. En revanche, là, on était d'accord tous les trois parce que je pense que Thomas et Olivier sont deux hommes très féministes. Et en fait, dans ce premier classement...
Tant mieux, on en a besoin.
Dans ce premier classement du Next 40, il y avait une seule femme qui était Julia Bijawi de Frishti. Et en fait, on se dit, mais c'est pas possible. En fait, on peut pas faire un podcast en fait, où on donne finalement la parole à 39 hommes et une femme. Et donc, on s'est dit, OK, on va faire un clin d'œil à Céline Lazarte et Tatiana Jama. Et on va faire une capsule.
Attends, on va juste préciser,
oui, pardon.
Céline Lazarte, c'est celle qui a créé...
Elle a créé Litchi, et qui est maintenant la fondatrice de Résilience, ouais, Care, qui est une app qui
est engagée contre le cancer.
Contre le cancer, ouais, exactement. Et Tatiana, c'est aussi une entrepreneur dans la tech, sérieux entrepreneur dans la tech. Et Tatiana et Céline ont lancé un collectif, et maintenant un fonds aussi d'ailleurs, qui s'appelle Sista, et qui a pour ambition d'aider, en tout cas, et d'évangéliser sur le sujet de la levée de fonds et des femmes et encourager à ce qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs.
Dans la tech,
ouais, notamment. Et donc, en clin d'œil à L2, on avait en fin de podcast, donc dans le podcast, une capsule, clin d'œil, qu'on appelait d'ailleurs Sista. Et on demandait en fait à chacun des entrepreneurs qu'on interviewait de choisir une femme entrepreneur qu'ils admiraient ou sur qui ils voulaient mettre un coup de projecteur et de lui poser une question. Donc, ils posaient leur question. Et là, moi, je me reconnectais avec l'entrepreneur en question. Et j'avais 5 minutes. Et dans les 5 minutes, je lui posais la question que le mec avait posée donc 5 minutes avant. Et en fait, on avait des filles incroyables dans les premières émissions, etc. On avait Lucie Batch de Too Good To Go. On a eu les filles de Fairly Made qui avaient été choisies par Julia. On a eu Eleonore Crespo de Pigment, qui est une des rares à être dans le classement Next 40 aussi, qui avait été choisie par Jean-Charles Samuel Lyon de Alan. Donc, on avait vraiment des filles incroyables et on leur donnait 5 minutes la parole. Jusqu'à ce qu'on fasse notre premier enregistrement en vrai, c'est-à-dire que bon, le confinement avait sauté, on devait être peut-être dans un deuxième confinement, mais je ne suis plus sûre. Mais bon, bref, en tout cas, Jacques-Antoine Grandjean de VP, Thomas et Olivier vont le tourner dans ses bureaux. Et il choisit Karine Schrenzel des Trois Suisses et Rue du Commerce comme Sista. Et là, avec Thomas, on se dit, c'est pas possible, on ne peut pas faire 3 minutes. Donc, on a fait un test en faisant 10 minutes. Et on l'a diffusé seul, en fait, sans être dans le format. Et en fait, ça a cartonné. Et à partir de ce moment-là, on a dit, OK, en fait, chaque Sista aura son propre épisode. Et donc, depuis décembre 2020, toutes les entrepreneurs re-choisis par les dirigeants du Next 40 qu'on a ouvert au FT 120 et FT 2030, qui sont des classements par Bercy, enfin des classements, des programmes d'accompagnement par Bercy sur des entreprises de la tech, choisissent tous une femme entrepreneur qui passe à mon micro pendant une heure et quart et qui s'appelle 40 nuances de Sista.
C'est une des questions qui m'a beaucoup interrogée quand j'ai préparé l'interview. Comment c'est de bosser avec son mari ? Vous voyez toute la journée au bureau. Vous avez monté une boîte ensemble. Vous êtes entrepreneurs tous les deux avec 2 enfants en bas âge. Donc vous voyez toute la journée et vous voyez le soir. Et vous voyez quand il y a des enfants qui ne dorment pas, comme pour votre deuxième fille qui a quand même mis 1 an à dormir. Voilà. C'est comment d'entreprendre ensemble ?
Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est souvent... On nous pose souvent cette question quand on sait qu'on est ensemble dans la vraie vie et dans la vie business. Écoute, nous, c'est naturel, en fait. Ça se fait de manière fluide et comme je te le disais... on bossait déjà sur des sujets, en fait, avant d'être dans la même, ouais, dans la même boîte.
C'était assez fluide d'en parler ensemble,
ouais,
le soir.
On est passionnés des mêmes choses. On a la même vision sur ce qu'on veut, en fait. Et donc, c'est assez fluide. Et je pense que là où il y a aussi un vrai sujet, c'est qu'il n'y a pas d'ego entre nous. C'est-à-dire que Moi, je suis aussi ravie qu'il prenne la parole que lui est ravi que je prenne la parole. En fait, il n'y a pas ce côté que certains associés peuvent avoir, tu vois. Et puis, il y a quelque chose quand même qui t'aide à revenir très les pieds sur terre, en fait. C'est que quand tu as tes enfants le soir à la maison, bah, tu ne parles pas que de ça non plus. Tu vois, au dîner, on ne va pas nous parler du client X ou du client Y, alors que tu as tes deux petites filles qui sont là, qui te racontent leur vie d'école et de crèche. Très intéressante, ces journées. Du coup, ça se fait de manière assez naturelle. C'est vrai que je ne vais pas dire qu'on ne parle jamais de boulot à la maison, ce qui est complètement faux, et qu'une fois que les filles sont couchées, on ne se remet pas quelquefois à bosser sur des recos, etc. Bien évidemment que ça arrive. Mais il y a un autre avantage, c'est que on se comprend méga vite. Et donc, si on n'est pas d'accord, souvent on n'est pas d'accord quand on travaille sur des recos de clients, où là on va se battre sur un mot parce que moi je veux tel mot, mais lui veut telle nuance. Et donc là on va se friter. Sinon, en fait, c'est très rare. Il n'y a pas en fait ce sujet-là. On est aussi complémentaires dans ce qu'on aime faire l'un et l'autre. Et donc, c'est assez. J'ai envie de dire que pour nous, c'est facile. Mais. Encore une fois, je pense que ça dépend des couples, des personnalités. Et voilà, j'ai envie de dire que c'est, les choses sont faites comme ça.
Et tu disais dans une question avant, enfin non, mais je ne t'ai même pas posé la question et tu l'as souligné que Thomas était féministe.
Oui.
Donc j'imagine que pour le partage des tâches, etc.
Ah oui, complètement. D'ailleurs, c'est très rigolo. Ma fille de 4 ans et demi, l'autre jour, m'a dit « Moi, maman, je voudrais un mari qui soit gentil avec moi et qui fasse les courses. » Parce que, voilà, attention, super, super scoop. C'est jamais moi qui fais les courses, par exemple. Et donc, comme elle voit son papa faire ça, c'est normal, en fait. C'est normal pour elle. Et oui, on se partage complètement les choses. Après, il y a des choses qui, de fait, tu vois, les rendez-vous médicaux, les machins, etc. C'est plutôt moi qui organise, donc c'est plutôt moi qui organise l'agenda en fonction. Mais il n'y a pas du tout ce côté, moi, je gère la boîte et toi, tu gères les enfants. C'est pas du tout comme ça qui fait notre couple. Et en plus, je pense qu'on est tous les deux issus de famille. C'est ce modèle-là, en fait. Enfin, moi, j'ai eu un papa qui, bien qu'il travaillait beaucoup, était très investi dans notre éducation. Tu vois, c'était lui qui était parent d'élèves, c'était pas ma mère, qui venait avec nous pour nous racheter des fringues. C'était pas la corvée de ma mère. Donc, et lui, pareil. Donc, c'est une suite logique.
Ouais, et puis, ça montre aussi la puissance du modèle qu'on peut avoir et qu'on peut donner à nos enfants.
Ensuite. Exactement, exactement.
Tu vois une évolution, toi, en 4 ans Donc, Feuille Blanche existe en 2020 avec le lancement du podcast. Déjà, comment réagissaient tous ces chefs d'entreprise, enfin, tous ces mecs de la tech quand vous leur posiez la question des femmes? Est-ce qu'ils étaient déstabilisés? Est-ce que
non, ils étaient tous conscients du sujet et très contents de pouvoir mettre en lumière des femmes entrepreneurs. Ouais. Là-dessus, vraiment, pour eux, c'était très chouette parce que pour certains, c'était l'occasion de pousser une fille dans laquelle ils avaient investi, par exemple, ils avaient investi dans sa société, par exemple, ou quelqu'un qu'ils avaient rencontré, qu'ils trouvaient formidable et ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de médias sur cette personne-là. Donc, c'était plutôt hyper bien accueilli.
Assez rapidement, il a semblé logique que ce soit toi qui mènes les interviews de 40 nuances de système.
Ouais. Oui, les garçons m'ont dit, écoute, ce serait bien que ce soit toi. Alors, on a eu un débat à un moment de dire si on le co-host aussi, comme Thomas le co-hostait. Et j'ai dit, mais pourquoi faudrait forcément co-hoster avec une femme Voilà. Bon, et finalement, ça, c'est pas fait. Je le fais toute seule, c'est très bien. On sommes dans notre bulle d'intimité dans le studio et ça se passe, ça se passe bien.
Et donc, est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marquée?
Plein. Récemment, j'ai été très marquée par l'histoire de Kat Bollorgan, qui a été la patronne de la French Tech, juste avant Clara Chapaz, qui est arrivée en France à 17 ans, sans parler un mot de français, et tout le parcours qu'elle a eu derrière. J'ai trouvé ça assez incroyable. Et puis, c'est très divers. Tu vois, la semaine dernière, j'étais avec une fille qui s'appelle Astrid Parmentier, qui a monté des crèches, enfin, qui monte un réseau de crèches en EHPAD, et qui est sur l'intergénérationnel et qui défend l'intergénérationnel. J'ai eu Lucie Declercq, formidable entrepreneur qui a monté le réseau Entourage. Et donc là, c'est comment en fait la tech peut se mettre au service du social. Donc c'est très, 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 très varié en fait comme sujet. Et à chaque fois, c'est des rencontres.
C'est un épisode tous les mois. Comment tu vois ça?
C'est un épisode, alors ça dépend. Normalement, c'est un épisode tous les 15 jours. de Sista et intercalé avec 40 nuances de Next. Et en fait, on a fait le choix de diffuser tout dans le même flux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous cherchez 40 nuances de Sista sur votre plateforme préférée, c'est sur 40 nuances de Next, où mes copines me disent « Mais pourquoi toi, il n'y a pas ta photo ?» Parce qu'on n'a pas refait la cover et que c'est pas grave, mais on va la refaire. Et en fait, parce que finalement, l'audience drainée par ces entrepreneurs heureux n'est pas forcément la même que celle des entrepreneurs mecs. Et en fait, les deux se complètent. Et il y a ce phénomène de ce qu'on appelle la découvrabilité dans le podcast qui marche hyper bien. Donc, au lieu de faire deux flux, on a décidé d'en faire qu'un seul.
Mais je crois que vous avez complètement raison.
Voilà.
Ouais. Moi, je me pose la question de faire des épisodes avec des hommes, justement, pour Genre de filles. Et on m'a conseillé de rester sur le même flux.
Bah, je pense que c'est mieux parce que tu habitues aussi ta communauté un certain, et ton audience, finalement,
complètement,
à une ligne éditoriale.
Et donc, à côté de Sista, enfin de 40 nuances de Sista, il y avait aussi un podcast destiné aux enfants qui s'appelait Philosophie.
Ouais.
Raconte-nous.
Ah, alors, ça c'était un super... bah, alors ça, c'est suite à une rencontre, tu vois, typiquement, de Sista. Alors, Philosophie, c'était un... enfin, c'est toujours, parce qu'il n'est pas mort, il est toujours, vous pouvez toujours les écouter. C'est un podcast où on donnait la parole aux 7-18 ans sur leur rapport au digital, avec un postulat de se dire... Oui, les écrans, c'est pas bien. Les écrans, il faut faire ci, il faut faire ça. Et nos injonctions de parents. Et en fait, de laisser la parole à ces enfants, ados, pré-adultes, sur leur utilisation, que ce soit des réseaux sociaux, des devices qu'ils pouvaient utiliser, etc. Et on a eu un panel d'enfants assez différents et assez riches. Alors, ce qui était marrant, c'était que c'est des enfants qui répondent à tes questions. Donc, c'est de manière très, très spontanée. Puis, quelquefois, ça part dans des trucs, tu dis « Ouh, il est parti !» Mais voilà, et on essayait en fait de les faire aussi réfléchir à l'IA, à ce que ça pouvait être demain, en fait. Et ils avaient des réflexions vraiment hyper intéressantes. Et où je me disais « Tiens, nous, en tant qu'adultes, on n'aurait pas pensé à ça. » Mais en fait, c'est hyper intéressant de penser comme ça. On a eu par exemple un petit garçon qui avait une maladie et lui, le seul moyen d'être à l'école normale et de suivre un cursus normal, c'était d'avoir une tablette parce qu'en fait, il ne pouvait pas écrire au même rythme que les autres. Donc, il nous expliquait en fait tout ça. On a eu Alia qui a été victime d'harcèlement scolaire et c'était la première interview qu'elle a faite, ça a été sur Philosophie et son envie de créer une app pour parler de ce sujet-là et essayer de changer les mentalités sur ce sujet-là. Donc, des sujets hyper divers. Et le projet est né parce que j'avais eu en Sista, la Sista d'Olivier Goua, patron d'October. Il avait choisi Marilyn Perronnet, qui était à l'époque la fondatrice de Digital School, qui avait pour ambition d'apprendre le code aux enfants sans passer par les écrans. Et en fait, elle avait envie de faire un podcast, etc. Et donc, comme nous, notre métier, c'est de concevoir aussi des formats, on avait conçu ce format et elle a dû co-hoster quelques épisodes avec moi, voilà, sur ce format de Philosophie, que j'ai mis en pause parce qu'après, en fait, j'ai attendu un deuxième bébé et qu'il fallait un peu prioriser aussi les sujets. Et c'est un podcast sur lequel, tu vois, c'est les sujets d'enfants. C'est pas facile de trouver des sponsors aussi.
Oui, donc là, on en vient aussi au sujet que je trouve intéressant spécialement pour ceux qui ont des podcasts, c'est le sponsoring, donc le fait qu'une entreprise te soutienne dans la création de ton podcast, sa diffusion, etc. Et donc, le fait que Philosophie ne trouve pas de sponsor, c'est quoi ? C'est parce que les sujets pour enfants...
Alors, c'était il y a 2 ans et demi. Je n'ai pas relancé entre-temps le sujet, mais les marques étaient encore réticentes dès que ça parle des enfants. En fait, c'est assez réticente pour se lancer, pour se projeter.
Parce qu'elles
ne voient
pas l'intérêt, en fait.
Je ne pense pas que c'est l'intérêt, mais je pense que... En fait, moi, je suis toujours quand même assez marquée par quelque chose. C'est que je te disais au début de cet entretien que... J'ai vraiment travaillé au tout début, le brand content est arrivé ici. Enfin, en tout cas, ça a commencé à être évangélisé en B2B. Et en fait, je me rends compte que 14-15 ans après, cette notion de brand content n'est pas toujours comprise et acquise par les directions comme marketing, voire même commercial. Parce qu'en fait, ça peut être un super atout commercial aussi, d'avoir un format avec ta marque qui est sur un contenu qui apporte de la valeur et un contenu qui sert ton message et qui sert ta marque, mais pas en disant « Ah, c'est super, c'est des clients de Bip Bip, regardez ce qu'ils font. » Mais sur vraiment ce que j'appelle ton territoire réputationnel, en fait, ou ton territoire de marque, ce sur quoi tu vas. Donc, je sais pas, par exemple... Une assurance pour enfants, par exemple, ça me semble pour être intéressé, à mon sens,
ben oui, complètement.
Pour sponsor un format comme ça.
Et parce que pour 40 nuances de Next, Sista ou Cash Out, qui est aussi un autre podcast de Feuilles Blanches dont on n'a pas encore parlé.
Non.
Donc Cash Out, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les termes, c'est, en fait, c'est des personnes qui ont revendu leur entreprise. Enfin,
exactement.
Des entrepreneurs qui ont revendu leur boîte.
Exactement. Des entrepreneurs qui ont revendu leur boîte. Alors là, tiens, j'ai un vrai sujet sur les femmes aussi.
Attends, on en parlera après.
Pardon,
juste une question.
Oui.
C'est que du coup, vous avez des sponsors pour ça
ouais.
Toutes ces podcasts, vous avez des sponsors
pour tous ces podcasts, on a des sponsors. Et c'est des formats même qu'on a pensé... Enfin, Cash Out, on l'a pensé pour un sponsor, bien que ce soit notre format à nous. Et sur 40 nuances de Next, pardon, quand on l'a lancé, on avait toute une panoplie de sponsors, mais pas que financiers. Des sponsors aussi institutionnels. Tu vois, je pense à la French Tech, France Digital. Là, on vient de signer Vivatech. Et sponsor média aussi, c'est-à-dire qu'on a un partenariat avec Madines qui repousse nos contenus, qui s'intègre complètement dans leur ligne éditoriale.
Mais c'est hyper intéressant. Je trouve, bon, après on dévie un peu du sujet, mais le sponsoring pour les podcasts, ça veut dire qu'il y a, quand même des sujets qui intéressent et d'autres pas du tout, ou beaucoup moins.
Puis il y a des sujets, tu vois, enfin, le sujet tech, quand on a lancé 40 nuances de Next, c'était le sujet number one. Aujourd'hui, c'est un peu, c'est toujours intéressant, mais les marques se bousculent moins parce que la conjoncture, parce que plein de choses qui vont être trop compliquées à expliquer là. Donc, je pense qu'il y a un peu des effets de mode. Il y a des sujets sur lesquels tout le monde veut aller à un moment. Et puis, il y a des gens qui restent frileux, tu vois, sur ce type de contenu.
Ouais, l'audio est encore... peut-être qu'il y a des marques qui se disent aussi... quel est mon retour sur investissement, en fait, si je sponsorise ton podcast ? Ont du mal à se dire que c'est...
Oui, il y en a, en fait, ouais. parce que je pense que c'est un média relativement jeune et nouveau, qui se construit aussi sur la durée. Et en fait, pour moi, je me souviens, on a eu cette conversation toutes les deux il n'y a pas très longtemps, mais en fait, je pense que... alors, ça, en B2C, c'est différent, mais en tout cas, en B2B, je pense qu'on n'est pas assez dans... l'audience qualitative versus l'audience quantitative. Et ça, moi, je l'ai appris, pour le coup, lors de ma première boîte, où on faisait quand même des sujets, quelquefois, hyper pointus en économie. Et je me souviens très bien entendre quelqu'un me dire « En fait, là, on fait un truc sur les normes IFRS 2. Si, en fait, on n'a que 150 vues sur cette vidéo, mais que c'est les 150 personnes qui comptent en France sur ce sujet... » Bah, c'est très bien, mais on sait qu'on ne fera pas 3 millions d'écoutes là-dessus. Et en fait, ça, je pense que la course au retour sur investissement oublie juste ce côté de qui je veux aller taper, en fait, et qui je veux adresser avec ce média, avec mon message, etc. Est-ce que je veux adresser la terre entière ou est-ce que je veux adresser peut-être les 3000 personnes qui peuvent potentiellement être mes clients en France à un moment T.
Ouais. Pour Cash Out, tu disais que tu avais un sujet sur les femmes.
Non, Cash Out, c'est un podcast, comme tu l'as dit, qui est dédié donc, à l'exit, à la vente d'entreprise. Et avec Thomas, on milite et on est proactif pour avoir des femmes dans le format. Et on doit être à une soixantaine d'épisodes. Et je crois que j'ai 6 filles sur l'ensemble des épisodes. Et ce n'est pas faute d'eux. Et c'est vrai que déjà, y a moins d'entrepreneurs, donc de fait, moins qui vendent. Et puis après, je pense qu'il y a un rapport toujours avec l'argent qui n'est peut-être pas forcément le même.
Parce que du coup, dans Cash Out, vous parlez
alors,
franchement...
Alors, on parle d'argent, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Au fond, bien évidemment, on donne sur 5 secondes une fourchette de prix, parce que souvent, de toute manière, les prix, le prix de vente est confidentiel. Donc, on recoupe les infos qu'on a à droite à gauche, on donne une fourchette et la personne dit « je ne peux pas commenter » ou la personne dit « oui, tu es à peu près dans la tranche », à part certains rares où l'information est connue. Mais en fait, ce n'est pas l'objet du podcast. En fait, il n'y a rien qui existe sur l'exit en France, en fait, sur le cash out. C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves à vendre ton entreprise. Généralement, tu n'es jamais prêt pour vendre ton entreprise. Tu te retrouves dans des négos, qu'est-ce que je dois faire, quelles décisions je dois prendre. Du jour au lendemain, tu es entre guillemets pas plus personne, mais avant tu étais le dirigeant 2 ou la dirigeante 2 et le lendemain, Et donc en fait, d'avoir ce retour d'expérience de personnes qui sont passées par là, c'est hyper important et intéressant. Et aujourd'hui, les gens qui sont en process de vente nous disent j'ai tout réécouté depuis le début, en fait, parce que je me suis dit je suis pas tout seul là-dedans. Ah, lui aussi, il a eu ça. Ah, cette clause-là, j'y avais pas pensé. Ouais. Donc, ça devient un peu la Bible du.
Alors, pourquoi il n'y a pas de femmes ?
Parce que, alors, mon analyse purement personnelle là-dessus, c'est que je pense que, un, il y a le rapport à l'argent. C'est un peu vulgaire, on va pas parler de ça, alors que c'est pas forcément le fond du sujet.
Et surtout qu'en plus, tu me dis que vous ne donnez pas de chiffres.
Non, c'est pas le cœur du podcast. Ouais. Je suis passée à autre chose Donc, en fait, pourquoi revenir là-dessus ? Il peut y avoir le syndrome de... C'est peut-être pas assez vendu, en fait, à côté d'autres. Donc, toujours ce côté d'infériorité. Et puis, parce que je pense qu'elles ont moins l'ego que les mecs, en fait, pour parler de leur histoire et qu'elles se disent, est-ce que ça va intéresser quelqu'un ? Moi, j'ai eu une entrepreneur récemment qui me dit, mais t'es sûre que je viens ? Je lui dis, mais c'est génial, ton histoire. Ça peut... Enfin, en plus, ça peut aider plein de femmes. Il faut que tu viennes en parler. Mais jusqu'à ce qu'elle soit devant le micro et qu'on ait fait « on », elle savait pas, en fait. Elle avait peur de raconter son histoire.
Oui, j'en ai pas mal aussi. Donc, j'ai pas encore interviewé d'hommes, mais j'ai pas mal de femmes qui me disent assez rapidement « alors, merci de m'inviter, mais t'es sûre que c'est intéressant ce que j'ai à raconter ?» Ou alors « attends, t'as vu les invités que t'as eus moi, ce que j'ai à raconter ?» Je trouve qu'il y a un peu ce côté « on se compare ».
Oui.
Peut-être que les mecs s'emmerdent pas à la comparaison.
Je pense. Ouais. Et il y a moins le syndrome de l'imposteur, je pense.
Et le côté égo aussi.
Oui, c'est clair.
Et j'ai l'impression aussi, tu parlais de les femmes passent plus facilement à autre chose. Peut-être que aussi, j'ai l'impression que les mecs sont peut-être plus nostalgiques.
Peut-être aussi.
Ce côté, ah ouais, j'ai fait ça. Alors qu'une femme dit, bon, maintenant ça c'est terminé, maintenant next,
on passe à autre chose.
Bon, en tout cas, si on entend parler de femmes, en gros, qui ont vendu leur entreprise.
C'est ça.
Ça t'intéresse ?
Ça m'intéresse.
Ok, c'est noté. Et ce goût pour l'écoute, parce que du coup, maintenant, c'est quand même une partie importante de ton boulot. Tu le cultives,
j'écoute tout le temps. je suis en veille permanente. D'ailleurs, c'était mon anniversaire hier, j'ai même eu un super casque de fou.
Ouais.
Parce que je disais, j'ai mal aux oreilles à force d'écouter des trucs. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, moi, je trouve que aussi bien, tu vois, dans le narratif, dans le podcast, nous, on fait beaucoup de podcasts interviews. Talk, on fait un peu de narratif, mais c'est pas le cœur aujourd'hui de ce
Quand tu dis narratif, c'est des podcasts de marque ?
Non, pardon. Quand je dis narratif, c'est du podcast où c'était pas en interview, en fait.
D'accord,
où vraiment, tu racontes une histoire. Donc ça, on en fait quelques-uns. Et en fait, moi, je trouve ça hyper inspirant de voir, tiens, comment c'est fait, comment c'est monté. Mais après, j'ai toujours eu cette curiosité-là parce que j'ai toujours été attirée par le média. Pas le côté paillettes, stars, etc. Mais tu vois, moi, je me souviens de... Alors là, côté médias télé, typiquement, je me souviens, jeune, parce que je pense que j'étais encore au lycée, regarder la Starac, mais en fait, pour comprendre d'un point de vue prod comment c'était fait et comment étaient montées les quotidiennes, l'histoire qu'ils racontaient, etc. Derrière, ça me fascinait, en fait, de voir ça.
L'histoire qui crée, en fait...
Oui. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je c'était complètement fascinée par ça. Et donc, le fait de raconter des histoires, tu vois, a vraiment été, je pense, le fil conducteur. Donc, mon premier job était complètement lié à ça. Et quand on a monté Feuille Blanche, c'était aussi mon envie de retourner dans le média avec le podcast qui commençait à éclore, tu vois, et à être de plus en plus présent, de pouvoir être aussi sur ce média-là. Avec une facilité qui est peut-être moins contraignante que la web TV, tu vois, ou que la prod télé, là, j'en parle pas et je compare pas du tout. Mais l'audio, en fait, le narratif, ouais, c'est tout le temps, en fait. Et c'est aussi notre métier, finalement, qu'on le fasse à l'écrit ou en podcast ou en vidéo.
Feuille Blanche, il y a aussi des podcasts de marque.
Ouais.
Dont il y a A Like, c'est ça ?
A Like, ouais, tout à fait.
Sur la relation mère-fille. Hyper intéressant. Est-ce que toi, tu as des envies de créer d'autres podcasts ?
Ah, mais plein, si on s'écoutait. C'est-à-dire que moi, j'ai des envies, toi aussi. Et donc, je pense qu'on a dans nos cartons, je pense, 10 concepts minimum, tu vois, de podcasts, sur différents sujets. Non, alors ça, on en a, mais plein.
Et pour toi, pour vous deux, en tout cas, quand vous commencez, vous avez des envies de podcasts ? Vous cherchez un sponsor et ensuite vous faites le podcast ?
Ouais, si c'est des podcasts qui sont portés par Feuille Blanche, oui, complètement, parce que Feuille Blanche, c'est pas que du podcast, hein, comme on le disait rapidement tout à l'heure, c'est aussi une agence où on travaille les marques, etc. Donc on peut pas être 100% de notre temps que sur du podcast. Donc oui, un sponsor. En plus, je trouve que c'est hyper intéressant de monter des formats qui répondent à une problématique, en fait, d'enjeu. Alors tu peux te monter un format pour le kiff et c'est génial aussi. Mais je trouve que pour les marques, de dire « Ok, c'est quoi ton enjeu ? C'est qui ton audience ? Et comment on va les capter ? Comment on va monter le message autour de ça ?» Je trouve que c'est hyper challengeant. Là, récemment, on a eu un retour de quelqu'un qui m'a dit « Je pense qu'en fait, Cash Out, c'est le seul podcast où je sais qui est le sponsor. » Parce que la manière dont vous avez raconté l'histoire avec le sponsor fait qu'on s'en souvient en fait, dans l'expérience. Et en fait, pour moi, le podcast, il y a ce qu'on entend et ce que les auditeurs entendent et qu'ils attendent. Le prochain épisode, mais il y a tout ce qui est en fait l'avant et l'après enregistrement, en fait un peu les coulisses de ce qui se passe, et ça c'est aussi fort pour les marques en termes de rencontres.
Pour finir cette première partie, est-ce que tu peux nous citer trois podcasts qui t'ont marqué ?
Alors, le premier qui me vient comme ça, c'est Ou peut-être une nuit, de Charlotte Pudlowski.
Il est bouleversant.
Il est bouleversant, il est d'une justesse incroyable. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du pathos, on n'est pas dans du sensationnel. Bon, la voix de Charlotte et Pudlowski est incroyable.
Et d'ailleurs, tu l'as interviewé.
Et je l'ai interviewé, ouais. D'ailleurs. J'étais très contente de... Parce que sur 40 nuances de Next, je ne choisis pas mes invités. Enfin, c'est à 40 nuances de Sista, vu que c'est les dirigeants du Next 40 qui les choisissent. Donc, en fait, j'ai toujours la surprise.
Mais tu as envie de les choisir ?
Écoute, alors quelquefois je me dis « Ah, je la ferais bien !» Mais en fait, c'est toujours aussi une surprise parce qu'il y a des gens, je ne les aurais jamais découverts. Parce que...
Oui, c'est vrai.
Et donc, en fait, c'est... Voilà. Mais peut-être que ça viendra, je ferai des exclus.
Il y a un truc à faire, oui.
Donc, ou peut-être une nuit. Oui, j'ai adoré ce format que j'ai recommandé à toutes mes copines. Dans le même genre, mais c'est aussi elle. Mais en fait, j'aime bien écouter Transfert quand je suis en voiture, ouais, ou quand je veux pas réfléchir à un truc vraiment profond.
Ouais, on précise juste Transfert.
Oui, pardon.
Pour
Slate.
Ouais. Bon, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un peu un des premiers.
C'est
podcasts.
Le premier. C'est le
et
premier
c'est des
podcast
récits,
en France.
T'as quasiment pas de... T'as une petite musique derrière et c'est des gens qui racontent une histoire.
Ouais, et en fait, on n'entend pas l'intervieweur.
Je pitche tellement mal.
Ben en fait, c'est Charlotte Pudlowski aussi qui l'a lancé en France, ouais, quand elle était chez Slate. Et en fait, c'est des histoires banales, incroyables, en fait. Enfin, les deux, tu as des histoires complètement incroyables et quelquefois des histoires, tu dis « Waouh, il s'est passé ça ». Tu n'entends pas l'intervieweur, en fait, ça dure 30 minutes à peu près. Et donc celui-là, j'aime bien l'écouter aussi. Et après, j'en ai plein. Genre de filles, bien sûr.
Non, c'est trop mignonne. C'est bon, on s'arrête là.
Non, voilà.
Vas-y, tu penses qu'il y a un dernier. Vas-y.
Non. Et là, après, je vais me dire, oh là là, il y a celui-là. Et après, quelquefois, c'est par thématique, en fait, tu vois. Il y a une thématique et je trouve hyper intéressant. Tu vois, Les Pieds sur Terre, par exemple, j'aime bien écouter de temps en temps, qui là est vraiment de la radio.
Ouais, je crois que je ne l'ai jamais écouté.
Celui-là, tu vois, Les Pieds sur Terre, je trouve... Alors, j'ai oublié le nom de la journaliste qui... Elle a une voix, en plus, tellement spéciale. Et alors, je ne les écoute pas tous, loin de là. Mais quelquefois, il y a un sujet et je me dis, tiens, je vais l'écouter parce que je sais que c'est toujours très bien traité. Mais j'aime pas, par contre, les podcasts qui parlent pour... tu vois, où on brasse du vent trop.
Ah bah on trouve de tout,
voilà.
Hein. Quand tu découvres des trucs, moi aussi ça m'arrive de décrocher assez rapidement. Ouais, tu trouves de tout en fait. C'est un peu les limites du podcast aussi. Merci beaucoup Solène pour cette première partie.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Fille sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Fille, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.